your compass.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là ?
On va pas la refaire.
Non, mais c'est pas vrai qu'elle a fait la blague. Même en vacances. Bah ouais, c'est les vacances, pas pour nous. on va réveiller un peu le campus parce qu'on est bien les seuls.
Ouais. on va se réveiller.
Oui, on va se réveiller évidemment, mais j'espère à midi quand même qu'on va se réveiller. Ouais. Vous êtes bien dans Écoute ta fac. Nous sommes le mardi 5 mars. Dans Écoute ta fac, comment tu vas, Fatine ?
Très très bien, et toi ?
Eh bah, ben ouais, ça va.
Ouais.
Ça va, les vacances.
Les vacances, bah non.
Là, on est en plateau spécial à la plage, en fait. vous ouais. Vous le voyez pas, mais on est à la plage.
Et c'est aussi
quoi ?
La semaine d'Aphrodite.
Eh ben oui,
bah oui.
La semaine d'Aphrodite spéciale sur toutes les antennes de Radio Campus Orléans.
Yes.
Avec l'émission spéciale, mais qui sera juste après Écoute ta fac de 13 à 14. Mm-hmm. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a une interview d'Arthur Guérin pour un appel à témoignage pour l'étude de Propamenco. Bon, mm-hmm. On verra ça avec toi, Fatine.
Yes.
On a une interview qu'on avait enregistrée il y a quelques jours mm-hmm. du collectif Les Survenus qui parleront de théâtre féministe. C'était très très cool. J'ai assisté à cette interview. Moi, je vous parlerai très rapidement du film Lawrence Anyways que j'ai revu hier au cinéma des Carmes mm-hmm. que j'ai présenté. C'est un pur bonheur ce film à chaque mmh. fois, donc je suis toujours trop content de le revoir, et là apparemment c'est assez exceptionnel, assez rare de le voir en salle, donc mmh. j'étais ébloui par toutes ces scènes, et puis comme d'habitude la musique mais au féminin cette semaine du coup pour la semaine d'Aphrodite, donc mmh. Tout ça très très cool, et bah tout de suite on enchaîne avec le titre Anabasha El Bahir de Nagat.
لأنه في لغانا وفرحنا وشانا
وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق أنا بعشق الطريق زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء شبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق أنا بعشق الطريق
Et tout de suite, après ce petit instant...
C'était trop beau, ce titre.
Tout doux, c'est, ouais, c'était très très beau. Et bah, c'est l'heure de l'invité.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Alors, aujourd'hui, je suis avec Arthur Guérin, sociologue et chargé d'études de l'ORS. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci de m'accueillir.
Pas de souci, hein. Vous venez nous parler d'un appel à témoignage à propos des problèmes de santé mentale suite au fameux Covid. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un peu l'ORS, ce qui est une appréciation pour Observatoire Régional de la Santé ?
Absolument. Donc nous sommes une association, on est basé à Orléans et donc notre statut associatif doit garantir notre indépendance, notamment politique. Ceci étant, nous travaillons majoritairement pour la fonction publique, notamment pour l'Agence régionale de santé, puisque nous traitons l'ensemble des questions sanitaires à l'échelle de la région, et parfois à plus petite échelle, et parfois en collaboration avec d'autres régions aussi.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre étude que vous faites ?
Bien sûr. Donc notre étude s'appelle Propamenco, ce qui correspond à parcours et profil des... ou plutôt profil et parcours... des patients en santé mentale à l'aune du Covid-19. Donc, en fait, on a choisi le cadre temporel de la crise sanitaire, donc de 2020 à 2021, pour étudier, en fait, l'impact de cette situation exceptionnelle, non seulement sur la santé mentale, mais également sur la possibilité de suivi et de prise en charge des patients. Pour voir, effectivement, s'il y a une influence sur les troubles, mais aussi sur la capacité des personnes à obtenir des soins. On a défini l'idée de la santé mentale de manière large. On s'adresse à des personnes qui estiment avoir eu des troubles, mais il n'y a pas des catégories précises là-dedans. Il peut y avoir eu un suivi long, court. Il peut y avoir des troubles antécédents, comme il peut ne pas y en avoir. Il peut y avoir de la médication ou non. Bref, on est vraiment sur une approche généraliste.
Oui, et est-ce que c'est pour les problèmes de santé mentale pendant la pandémie ou après, ou est-ce que les périodes changent un peu le degré de problème chez un patient?
Alors, quelque part, l'expérience de toute personne est singulière et on ne s'occupe pas d'émettre de jugement particulier sur ce qu'ils traversent. Par contre, si on a fixé un cadre temporel, c'est pour avoir une idée un petit peu précise et pour rapporter finalement les témoignages que l'on recherche à des données statistiques qui sont établies dans le SNDS, c'est-à-dire le Système National des Données de Soins en Santé. Et on s'est intéressé particulièrement aux soins en santé mentale. C'est-à-dire que dans les témoignages que l'on cherche, on va sélectionner des personnes dont les troubles se sont manifestés en 2020 et en 2021. Néanmoins, dans les questions qu'on leur pose, on parle bien évidemment de leur expérience jusqu'à aujourd'hui. Et donc, s'ils veulent nous parler également de la prise en charge au-delà de 2021, ça fait partie des choses qui peuvent nous intéresser, bien sûr.
Et est-ce que vous avez déjà commencé à faire des questionnaires à des personnes déjà ou vous cherchez?
Alors, on a commencé notre étude en 2023. Donc pas au tout début de l'année, mais ça fait quand même un certain moment que ça dure. Et notre méthode pour notre approche de témoignage, c'est les entretiens. Dans le jargon de la sociologie, on différencie ça des questionnaires qui sont quelque chose de vraiment formalisé avec une série de questions, avec un ordre précis, parfois des réponses qui sont prédéterminées. Là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une discussion avec les personnes. On va aborder des points qui correspondent aux choses qu'on a envie d'aborder, mais on ne va pas forcément le faire dans un ordre déterminé. On va adapter nos questions aux personnes. Et ça, on a commencé depuis 2023 à collecter des témoignages. Notre objectif est d'en récolter 16 à l'échelle de notre région. Et pour l'instant, on en a 9. Voilà. Okay. Donc, il nous en manque encore quelques-uns. Alors, peut-être que quelque chose que je dois préciser, c'est que sur les 16 entretiens, on a deux populations que nous essayons de cibler. Donc, les personnes qui avaient de 18 à 24 ans durant la crise sanitaire et les personnes qui avaient entre 50 et 64 ans, sachant que ces bornes ne sont pas forcément à prendre au plus haut degré de précision. S'il y a des écarts de mois, voire d'une année ou deux, on accepte les témoignages des gens qui seront volontaires. Voilà.
Ok. Et pourquoi pas moins de 18 ans ?
Alors, techniquement, ça pourrait correspondre aussi à des périodes, une période importante de la vie où on peut développer des troubles. On l'a fait par convention parce que, en théorie, les personnes qui sont mineures, ça complique un petit peu notre approche pour les joindre. Maintenant, comme c'était il y a déjà 3 ans ou presque, les personnes qui avaient en dessous de 18 ans à l'époque sont aujourd'hui majeures. Et donc, si elles avaient 16 ou 17 ans, on veut bien les écouter aussi.
Oui, c'est vrai. Et selon l'étude, du coup, comment la pandémie a influencé l'émergence des troubles psychiques ?
Alors, pour l'instant, il est un petit peu tôt pour avoir une réponse définitive. Okay. Mais il y a des pistes de recherche qui sont suggérées par les études qui ont déjà été produites. Même, je pense, pendant la crise sanitaire, il y avait déjà des choses qui avaient été observées. Bon, je pense que un aspect important, c'est l'expérience du confinement et le fait d'être chez soi, peut-être parfois en arrêt de travail, avec des ruptures dans le parcours des études. aussi pour certains, et plus généralement une réduction des contacts sociaux. Et en fait, tout ça, ce sont des choses qui peuvent avoir une certaine lourdeur dans le quotidien et affecter la santé mentale des personnes, avec des facteurs aggravants comme le fait d'avoir un logement petit, sans accès avec un balcon et au grand air, et le fait d'habiter à plusieurs. Voilà, il y a des facteurs comme ça. Mais maintenant, comme je l'ai dit, les expériences des personnes sont diverses et ça peut être des choses tout à fait différentes de ça, qui peuvent avoir une influence. Voilà.
Et quels sont les patients les plus touchés par ces problèmes? Vous trouvez que c'est les tranches d'âge de 18 à 24 ans ou c'est les plus âgés?
Alors, si on a sélectionné ces deux tranches d'âge, c'est effectivement parce que dans les deux cas, on s'attend à avoir peut-être on a observé une augmentation générale pour ces deux années-là. Mais elle est sans doute plus prononcée sur ces deux classes d'âge, particulièrement pour les personnes les plus âgées. Mais dans le cas des personnes les plus âgées, on s'attend à trouver plus de personnes qui avaient peut-être déjà eu des troubles auparavant, qui ont une expérience de vie plus complexe de manière générale, alors que les jeunes, on s'attend à trouver plus de premières consultations. En fait, c'est surtout ça, la différence.
Ce qui est bien, d'avoir des premières consultations, comme ça, ça ne s'aggrave pas.
Alors effectivement, nous, au-delà de cette étude, on s'intéresse beaucoup à la prévention. Et on pense qu'effectivement, si les professionnels le disent, c'est qu'il faut les écouter. Et que les personnes, la parole doit être libérée, les personnes doivent pouvoir s'exprimer et puis pouvoir avoir accès aux soins s'ils en ont besoin, c'est sûr.
Et pouvez-vous nous parler des évolutions observées dans les situations et les parcours des patients dans un système de soins perturbé par la Covid-19?
Alors, pour l'instant, pour ce qui est de l'approche qualitative, on n'a pas encore peut-être suffisamment une vision d'ensemble pour pouvoir dire ça de manière précise. Et je n'ai pas exactement tous les aspects de notre étude quantitative, donc basée sur l'exploitation des statistiques en tête. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire a surchargé de travail le professionnel sanitaire, avec aussi des complications liées aux gestes barrières, aux protocoles sanitaires à observer, et on peut s'attendre à ce que dans certains cas, surtout concernant les personnes qui consultaient pour la première fois ou qui cherchaient à consulter pour la première fois, on a eu des difficultés d'accès aux soins. Après, pour certaines personnes qui étaient déjà suivies, il peut y avoir une certaine continuité, mais peut-être une modification des possibilités d'obtention de rendez-vous. On a quelques personnes qui nous ont parlé de téléconsultation, mais ce n'est pas forcément un phénomène généralisé pour autant.
Et quels sont les changements que vous avez observés chez les patients plus âgés par rapport aux plus jeunes en termes de recours aux soins?
Les changements par rapport à la période d'avant, vous voulez dire?
Oui.
Je pense que là, surtout, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est surtout qu'il y a beaucoup de recours pour les personnes les plus âgées. C'est plus l'augmentation générale. Après, en termes de comportement particulier, du type de soins, je pense qu'on n'a pas encore, à l'heure où je parle, des résultats si précis que ça à avancer. Donc, je vais retenir mon
Et votre étude, elle a quoi comme objectif ou comme idée à mettre en lumière, comme objectif ou résultat à atteindre? Genre, vous faites cette étude, il y a définitivement des personnes qui ont des troubles psychiques et tout, mais après, quoi faire? Pourquoi faire après?
À quoi va servir notre étude? Bon, alors, de manière générale, dans la recherche, on cherche l'augmentation des connaissances. Donc, plus il y a d'informations qui est disponible, que ce soit aux autres chercheurs ou à des personnes plus dans le secteur professionnel, plus il y a de matière à penser et puis à organiser les pratiques. Maintenant, notre commanditaire, qui est l'ADRES, donc la Direction de la Recherche, de l'Évaluation des Études et des Statistiques, est un organisme public qui produit de la connaissance pour l'ensemble du champ public. Et donc, on peut espérer que notre étude participe, avec d'autres, bien sûr, à informer un peu une prise de décision dans le champ de la santé mentale. Maintenant, ça, c'est des choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, vu que nous sommes de simples consultants.
C'est vrai. Et est-ce qu'il y a une différence entre les genres entre hommes, femmes, à propos des santé mentale, des troubles?
Alors typiquement, on s'attend à trouver une population un petit peu plus féminine. C'est d'ailleurs ce qui a été montré dans la partie quantitative de notre étude. Maintenant, comme notre échantillon d'entretien n'est pas encore complet, c'est difficile de vous donner un chiffre exact, mais il me semble que pour l'instant, on a quand même une relative égalité dans les personnes qui se manifestent. Maintenant, il est sans doute, ce qui sera sans doute observable, c'est que le type de trouble et la manière de recourir à des soins ou à des professionnels sera sans doute un petit peu différente. Maintenant, voilà, pour l'instant, je reste réservé là-dessus.
Et pourquoi le nombre d'échantillons? Comment avez-vous choisi ce nombre-là?
Alors, en fait, on a choisi 16 échantillons à l'échelle de notre région. Donc, je précise parce que notre étude a lieu à l'échelle de deux régions, donc la région Centre-Val-de-Loire et à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a aussi un observatoire régional de la santé avec qui on travaille. Donc, ça fait 16 entretiens par territoire et 8 entretiens par classe d'âge. Alors, c'est relativement peu, c'est-à-dire qu'avec ces méthodes qualitatives, on ne va pas avoir une exhaustivité ni même une représentativité parfaite de la population. Par contre, ça nous permet de quand même avoir une vue qui est relativement générale. On va pouvoir comparer avec l'autre région. Si on ne peut pas faire ça à plus grande échelle, c'est aussi en fonction des ressources qui nous sont attribuées et du temps qu'on peut consacrer. Si je suis là aujourd'hui, c'est notamment parce qu'on a du mal à trouver les gens. Donc avec une plus large population d'entretiens, soit il faudrait prévoir peut-être des entretiens plus courts et peut-être des manières, des modes de recrutement un petit peu plus amples. Soit on est obligé de réduire le nombre total d'entretiens. Maintenant, il faut voir que cette méthode-là vient en complément d'une méthode statistique qui est beaucoup plus globale et qui pourra beaucoup plus prétendre à l'exhaustivité. Néanmoins, les chiffres nous informent sur des réalités, mais en masque ou en invisibilise d'autres, et notamment la parole et le vécu à travers le temps, l'expérience du recours aux soins qui est individuel et qui reflète avec des mots un petit peu vivants les situations vécues, c'est quelque chose qui va forcément rendre plus profond et plus complète notre analyse.
C'est vrai. Et comment peut-on vous trouver pour postuler ou candidater pour votre formulaire, pour participer à votre étude?
Alors, nous avons un site internet, orscentre.org, il me semble que c'est tout attaché. Vous pouvez aussi trouver l'Observatoire régional de la santé sur Facebook et sur LinkedIn. Je pense que vous pouvez aussi vous rapprocher de Radio Campus, qui auront nos coordonnées téléphoniques et une adresse mail à vous fournir, si vous voulez témoigner.
Et ça se fait comment, la participation? C'est un formulaire à remplir et c'est anonyme?
Alors, je vous parlais d'entretien.
Oui.
Donc, en fait, on va proposer aux personnes un créneau sur lequel ils sont disponibles pour parler. On a la possibilité de se déplacer, mais s'ils habitent vraiment trop loin dans la région, on préférera peut-être le téléphone ou la visioconférence.
Okay.
Et donc, on leur propose un temps entre 3/4 d'heure et 1h30, voire un petit peu plus, s'ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, durant lequel on va échanger, donc avec des questions adaptées à leur expérience propre. Et on va enregistrer cet entretien. Alors attention, on respecte la confidentialité des personnes, on ne note pas leur nom, leurs adresses, leurs données personnelles. À l'issue de notre enquête, tout ce qu'on relève de leur expérience personnelle, ce sera détruit. Il ne restera plus que quelques petits extraits qui viendront appuyer notre analyse. On les enregistre et notre enregistrement sera retranscrit sous forme écrite pour pouvoir être exploité. Voilà.
Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à visiter le site de l'ORS ou Facebook ou Instagram ? Vous avez dit Instagram aussi ?
Alors, j'ai créé un compte Instagram exprès pour cette étude, mais je suis encore assez nouveau et j'ai l'impression que mon post n'a pas été beaucoup vu. Peut-être qu'en cherchant ORS, santé mentale, Centre-Val-de-Loire, tout ça, ce genre de mots-clés, vous me trouverez, mais dans le doute, vous pouvez, dans un moteur de recherche, chercher le site de l'ORS sur Facebook ou LinkedIn. Voilà.
Ouais, c'est tout simple. Et ben, merci beaucoup pour votre passage à l'antenne.
Et ben, c'est moi qui vous remercie.
Et à bientôt.
Merci beaucoup. Nous, tout de suite, on écoute Julia Govor avec Space Dust et Born Trust.
Radio Campus 88.3 FM.
Du 12 au 17 mars au Palais des Sports, venez découvrir les 5 disciplines du badminton à l'occasion de l'Orléans Masters Badminton présenté by Victor.
Au programme, plus de 200 matchs opposant les meilleurs joueurs et joueuses du monde entier qui tenteront de gagner les derniers points pour la course aux Jeux Olympiques et des animations avec le village du badminton au Parc Pasteur. Plus d'infos et réservations sur orleansmasters.com.
Radio Campus 88.3 FM.
Et qu'est-ce que ça veut dire cette pub ?
Ça veut dire
qu'il y a le jeu qu'on vous fait toujours gagner des places
pour
l'Orléans Masters Badminton. Et comment on joue, Fatine ?
Comment on joue ? Faut nous écouter d'abord.
Faut nous écouter, évidemment.
Oui.
Mais s'ils sont là, ça veut dire qu'ils nous écoutent.
Ouais. Et après, on dévoile le code magique.
Le code magique.
Et après, ils vont.
Ils vont tout simplement sur le site. Oui. On vous donnera le code secret là dans un instant. On fait monter un peu le suspense, comme tu disais au tout début.
Dans un instant.
18 places, je rappelle, 18 places à gagner en catégorie 1. Donc ce sont les places les plus près, les plus proches du terrain pour des sensations de folie. Donc tout simplement, on va vous donner le code. Et puis dans la page d'accueil du site de Radio Campus Orléans, il y a une petite rubrique concours.